Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des choses en lien avec l'écologie et le Lab 01. J'ai le bonheur d'avoir à mes côtés aujourd'hui Guillaume.
Salut.
Alex.
Salut.
Anne-Sophie.
Hello.
Je suis Mathilde. Dans les études démographiques, la part de Français résidant en milieu rural n'a cessé de s'amoindrir, passant à 1 Français sur 3. En 2022. Pourtant, dans les sondages, 81% des Français affirment que vivre à la campagne représente la vie idéale. Et oui, la campagne, c'est synonyme de vaches dans les champs, les petites fleurs, les oiseaux qui gazouillent dans les arbres. Mais quid des déplacements ? Quand il faut prendre la voiture pendant 45 minutes pour aller travailler tous les jours ou simplement pour aller à la pharmacie ou acheter du pain, c'est subitement beaucoup moins écolo, confortable et économique. Oui, aujourd'hui, on parle transport et ruralité.
Mais en fait, moi j'ai une première question, c'est quoi qu'on appelle ruralité ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de définitions différentes.
Ouais, chacun a un peu sa vision des choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à l'INSEE, donc, qui est un peu la base hein, pour définir les concepts, ils ont changé d'approche en fait en 2021. Avant, le monde urbain était défini comme un territoire où les bâtiments étaient proches, moins de 200 mètres d'écart, c'est vachement précis hein, quand même, et ça est rassemblant au moins 2000 habitants. Mais en fait, désormais, c'est la densité d'habitants au kilomètre carré qui est prise en compte, à la place donc du bâti. Donc les communes rurales, ça comprend les communes peu ou très peu denses, avec respectivement 52 habitants et même 13 habitants au kilomètre carré en moyenne. Donc en fait, avec cette nouvelle approche, c'est plus un quart, mais bien un tiers de la population qui vit en milieu rural, donc 33%. Mais en réalité, l'INSEE va plus loin, et c'est très intéressant également, parce que ça prend en compte la relation de ces habitants qui vivent à la campagne avec la ville, à travers l'emploi. Donc avec cette nouvelle définition parmi ces 33%, il y a 14% de la population qui vit dans les campagnes dites autonomes, donc en fait sans relation en fait, avec la ville. Et à contrario, 10% qui sont sous forte influence, c'est-à-dire qu'en fait 30% au moins des actifs de cette commune rurale, ils travaillent en ville. Donc ça pose évidemment la question du prix des carburants et de besoin de transport en fait, pour transporter tous ces gens qui passent de la campagne à la ville, sans parler même de l'évolution des modes de vie, où même quand on vit à la campagne, on a envie d'avoir en fait, le confort de la ville. Ça pose donc la question de pourquoi il n'y a pas plus de transports en commun dans ces villages.
Ouais, le problème des transports en commun dans les villages, c'est vraiment une arlésienne. Il y a très souvent des demandes très fortes d'habitants là-dessus. Pour vous donner une idée, en ville, quand on paye son ticket de bus, en gros, ça recouvre à peu près 30% des coûts réels. Donc le reste, c'est la collectivité et les collectivités qui payent. Bah, à la campagne, ça serait encore moins parce qu'en ville, les bus sont pleins. Vous imaginez bien que ce ne serait pas le cas à la campagne. Et en fait, pour qu'ils soient utilisés, il faut qu'il y ait une certaine fréquence. On ne peut pas se dire, on met en bus une fois par jour. Les gens ne seraient pas satisfaits parce que ça ne répondrait pas beaucoup aux besoins. Et donc, c'est pour ça que les transports en commun se développent peu, c'est que ça coûte cher, ça déplace peu de personnes. Ça n'empêche pas d'envisager, et on y reviendra après, des solutions. Mais en tout état de cause, par contre, il y a quelque chose d'important, c'est de ne pas enlever des services. Je vous donne un exemple, j'ai une amie qui est partie vivre dans un village et qui a choisi ce village parce qu'il y avait un bus qui allait jusqu'à la ville d'à côté. Et quelques mois après qu'elle ait emménagé, qu'elle ait acheté sa maison et qu'elle ait emménagé, ils ont supprimé le bus parce que ça coûtait trop cher. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'on a quelqu'un qui est dans une belle démarche et qui a été stoppé et qui maintenant utilise sa voiture tous les jours. Donc il y a quand même à faire attention côté collectivité, à se dire il faut qu'on garde, pour changer les habitudes des gens, il faut que nous, on diminue pas l'offre.
On a ce problème-là sur les gares aussi qui ferment. De temps en temps, on décide de fermer une petite gare. Ça tue le tissu économique. Mmh. Des gens sont installés parce qu'il y a la bagarre. Et c'est le même problème qu'on a sur certaines gares.
Bon, alors avant d'aller sur le pan des alternatives, on va faire un petit jeu. Je vous propose un jeu d'estimation. Alors, je vous donne un itinéraire, et vous devez me donner le temps qu'il faut pour rejoindre les deux villes. Ok ?
Comment ?
Je vais vous le dire à chaque fois. Ah. Alors, Nice-Brest à pied, en jour.
6 jours.
30. 50.
11. On n'est pas du tout.
Nice-Brest.
Non, mais attendez, par contre, 11
en courant
24 heures sur 24.
Ah oui, bien sûr.
C'est-à-dire, en réalité,
ah ouais,
30 ou 50.
J'ai compté 20 bandes par jour.
Ah non, 20
bandes par jour. Du réaliste, pas, on n'est pas un ultra-trainer.
Attends, non, je suis allée sur Mappy. Hein.
Il est de mauvaise foi, je suis la plus proche.
Allez, juste
ça. Si c'est pour Kylian Jornet, ça compte pas.
Paris-Berlin en vélo.
Ouais, pareil, ça s'arrête jamais, quoi.
En heure.
Ça, exactement.
Sans s'arrêter, hein. Faut vraiment que je le précise à chaque fois.
Deux jours.
Ouais, cinq jours.
Ouais, ah, même trois. Ah ouais, Berlin quand même. C'est pas...
12.
Trois jours.
58 heures. C'est pas si long, en fait.
Bah,
allez, Lyon...
Anso, 2 points.
Lyon-Moscou en covoiturage, en heure.
Un covoiturage.
Ah, bah c'est pas loin.
Je sais pas.
Allez, en 20 heures, on y est.
40-50 heures.
35 heures.
33.
Oh là là.
Papa, excuse-moi.
Allez.
Tout le monde.
La Rochelle-New York en pédalo. En moi.
Et sans être bouffé par un requin.
Sans s'arrêter, sans mourir. Sans tourner.
Au hasard, 3 mois.
5.
Deux,
ouais, c'est ça. Ouf. Et enfin, Bourg-en-Bresse-Lyon, donc sans passer par l'autoroute, en roller, en heure.
Ça fait combien, les rollers ? 5 heures ?
7 ?
8.
4,25.
Ouais,
ça se fait. Hein.
J'ai au moins un point.
Ouais, c'était pas facile. Bon, allez, on va dans le rayon des alternatives. Si tu nous parlais vélo, par exemple, Guillaume.
Ouais, bah le vélo, déjà... Première chose, il faut vraiment le considérer comme un mode de transport, parce que trop souvent dans nos communes, on considère ça comme des gens qui vont se balader, qui vont faire éventuellement du sport, mais vraiment le vélo maintenant, ça doit être considéré comme un mode de transport pour aller d'un point A à un point B. Et voilà, le mode le plus rapide doit être privilégié, même pour les vélos. Je fais un parallèle parce que je vois beaucoup de créations de pistes cyclables qui sont un peu aberrante, on crée des pistes cyclables à gauche, à droite, en disant, oh, bah, les vélos, ils vont faire ce détour-là, ils vont prendre la petite côte et puis ils vont passer par ce petit passage-là, alors que la route en voiture est directe, et pas du tout faite pour... Ouais. Beaucoup plus rapide pour les vélos, pour les voitures que pour les vélos, pardon. Et ouais, je pense aussi que les pistes cyclables, elles ne sont pas conçues, elles vont jusqu'à un certain point, mais des fois, bah, par exemple, celle d'Ambérieu va jusqu'à Château-Gaillard, jusqu'à l'entrée d'autoroute, et le village de Château-Guéhère qui se trouve 300 mètres après, pas de piste. On se dit pourquoi faire une piste de 2,5 km pour aller jusqu'à une autoroute ? Bon,
mais okay. Oui, faut-il que les équipements soient en conséquence. Quoi.
Exactement. Ouais.
Je lisais que le vélo, c'était le mode de transport le moins pollué. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un environnement confiné.
Oui.
C'est vrai, on n'y pense pas, mais même c'est moins pollué que le métro, même, par exemple.
Ah bah oui, le métro, c'est très très pollué, par contre.
Bon, évidemment, il y a le covoiturage aussi.
Le covoiturage, bon. Je me suis lancé comme défi pour l'émission de faire l'expérience du covoiturage pour venir à mon travail, c'est-à-dire de partir de Pondin et d'aller jusqu'à Tossière, avec en tête une bande publicitaire vers chez moi d'Illico, une plateforme de covoiturage qui propose une nouvelle ligne Pondin-Bourg-en-Bresse. Pratique, elle propose une flexibilité des horaires, elle est gratuite pour les passagers et elle rémunère les conducteurs. Génial. Sauf que dans mon cas, je veux m'arrêter et repartir des Ossia, c'est-à-dire à mi-parcours, et que la plateforme ne le permet pas aujourd'hui. Aussi, j'ai contacté Illikov et ils m'ont très rapidement répondu qu'ils travaillent sur cette possibilité avec des arrêts intermédiaires. Alors, je garde espoir et aussi je vous conseille de faire cette démarche, car vous avez peut-être déjà une solution alternative pour vos déplacements disponibles, et sinon retentez un peu plus tard, les choses évoluent dans ce domaine tous les jours. Et en plus, plus vous vous inscrivez sur ce genre de plateforme, plus elles sont pertinentes.
Plus globalement, il y a quand même la problématique qu'on n'a pas encore abordée, qui est l'aménagement du territoire. Comment on a aménagé nos villages et nos zones rurales et périurbaines depuis 40 ans ? Et il y a clairement le gros problème des zones industrielles. Et ça fait 40 ans qu'on fonctionne comme ça, où maintenant les supermarchés et certains commerces et grands commerces ne se retrouvent qu'en zone industrielle et donc où on a absolument besoin de la voiture.
On a un bon exemple ici à Bourg avec KPM Road et la
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, le centre-ville, du coup, maintenant, les magasins ferment.
Exactement. Ça a des incidences avec les petits magasins de centre-ville qui ferment et donc, du coup, plus la possibilité de le faire à pied. Forcément, un bilan carbone qui a été catastrophique aussi. Le besoin de la voiture pour aller faire ses courses. Et donc, il y a vraiment à repenser. Alors, on a des territoires qui le font maintenant, mais on est encore loin d'avoir trouvé des solutions sur cette manière dont a été organisée la France avec cette vision où la voiture était présente partout et que ça posait pas de problème. Sans compter évidemment que ça a été souvent sur des zones naturelles ou agricoles et que du coup ça a une incidence aussi sur la nature, sur l'environnement et sur la biodiversité. Au-delà de ça quand même, on a certains territoires qui depuis quelques années, prennent à bras-le-corps ce sujet. Donc, tu viens d'évoquer des idées. Il y a vraiment comment on fait pour être en mobilité alternative quand on est en territoire rural. Il y a aussi beaucoup de contraintes quand on a, quand on va faire ses courses, quand on accompagne ses enfants. Parfois, il n'y a même plus d'école dans le village et donc, du coup, il faut trouver des solutions, même si normalement, il y a des bus. Mais en tout état de cause... Il y a des territoires qui tentent et qui tentent avec de la créativité. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et il faut saluer ça quand on essaye des choses. Alors, des fois, ça marche, ça marche pas. Mais par exemple, le transport à la demande. Vous pouvez réserver votre navette dans certains territoires et puis on vous dépose. Par exemple, le covoiturage rémunéré. Vous êtes covoitureur ou covoitureuse, vous passez par tel endroit, vous le signalez et qu'il y ait quelqu'un ou pas, vous avez une petite rémunération. Il y a l'autopartage également, il y a plein de choses qui existent dans plein d'endroits, notamment ici dans le Bugey, mais ça existe aussi par exemple dans le Vercors. Vous descendez du Vercors et vous descendez en covoit, et pour remonter, on vous assure qu'il y aura quelqu'un. Donc ça peut, et si jamais il n'y a pas de covoiturage, c'est le taxi qui vous remonte, mais ce qui existe aussi dans l'Ain. Donc, on tente des choses qui parfois marchent, parfois non, mais c'est l'idée d'accompagner les changements de comportement. Et quand même, je pense qu'il ne faut pas une ambition qui soit démesurée, mais il y a une des premières ambitions qui peut être d'essayer de supprimer la deuxième voiture dans une famille, et voire même la troisième famille parfois, la troisième voiture. et c'est déjà un enjeu
ça,
en soi.
Ce sera le sujet d'une autre émission. Le covoiturage, je lisais une étude qui était marrante sur les impacts bénéfiques du covoiturage. Il y a 98% des conducteurs qui disent avoir passé un trajet agréable. Mais en fait, il y a aussi la sécurité, quoi. 80% des conducteurs ont estimé que le fait d'avoir un passager, ça les forçait à être plus prudents sur la route. Mmh. On n'y pense pas, mais en fait, il y a aussi des avantages. Il y a un observatoire national du covoiturage avec 26 plateformes et il y a plein de données super intéressantes sur le covoiturage. Notamment, en fait, il n'y a que 4% des trajets covoiturés qu'ils sont en utilisant une plateforme. En fait, parce qu'on fait beaucoup de covoiturage informel, quoi, entre amis, famille, voisins.
Bon, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour venir à l'émission.
C'est vrai.
Exactement. C'est quand même 40 000 déplacements par jour, le covoiturage sur les plateformes, donc c'est pas rien. On parlait aussi du coup des trajets domicile-école. C'est vrai que quand on a des enfants, c'est une grosse source de déplacement. Mais c'est souvent, quand il y a des alternatives comme les pédibus, les vélobus, tout ça, c'est quand même souvent des initiatives de parents aussi. Hein. Oui, des fois, il ne faut pas attendre que ce soit l'école ou la commune qui organise. Il y a un portail national de l'écomobilité scolaire. En fait, ça recense les bonnes initiatives. Et on peut aller... Il y a plein de ressources qui existent pour essayer de créer des projets, comme sur le site de l'ADEME, par exemple. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis, sur la question?
Le mieux, mais pour les écoles, s'arranger avec les parents quand on dépose les enfants. On voit les gens qui viennent en vélo, qui viennent à pied, et puis on s'arrange entre nous. Et il faut savoir prendre les choses en main et pas attendre forcément que ça vienne d'ailleurs, d'en haut ou d'ailleurs.
En tout cas, ça viendra de plein de leviers. D'abord, les initiatives citoyennes. Le lobbying citoyen aussi pour développer notamment les pistes cyclables qui sont, et les itinéraires cyclables qui sont un vrai enjeu. Et puis, derrière, les pouvoirs publics qui mettent en place ces aménagements. Mais sur la ruralité, le vélo, c'est vraiment un enjeu fondamental quand on voit que parfois, c'est seulement à quelques kilomètres entre deux villages ou entre un village et la ville où on va. Mais que pour l'instant, il n'y a rien de sécurisé, et notamment quand c'est des nationales et des départementales.
Oui, exactement. Écovoiturage, en plus, ben, on parle souvent de faire des économies en ce moment. Il y a eu un petit calcul qui a été fait. Si vous covoiturez avec un collègue, en fait, genre chacun prend sa voiture à tour de rôle, et que vous êtes à 30 km de votre lieu de travail, ben, vous économisez 96 euros par mois si vous travaillez 5 jours par semaine. C'est top. Moi, j'aime bien quand l'écologie rime avec économie aussi. Ah, toujours. Bon, ben c'est là-dessus que notre émission touche à sa fin. Quelques petites recommandations avant de se quitter.
Tout à fait. La fête du centre social de Saint-Rambert-en-Bugey, donc dans le Bugey comme son nom l'indique, qui est une très belle fête, qui justement où il y a marché artisanal, des concerts, mais également pas mal d'animations écolo. Donc le 25 mai, toute la journée, venez nombreux. Et en plus, si vous venez en vélo, et ben vous avez un petit cadeau.
Ah, ça c'est cool.
Ouais.
Mais il y a aussi, puisqu'on reste dans la thématique, le challenge mobilité qui est organisé en général au mois de juin, où on encourage les gens à utiliser des alternatives pour aller au travail.
On en reparlera d'ici là, je pense.
Ouais, c'est ça. Allez, merci à vous trois et merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. À bientôt.
Salut.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique.